France Culture. Le 9 septembre dernier avait lieu un anniversaire que vous avez peut-être oublié de souhaiter, celui de l'Agence de participation de l'État, soit l'organe chargé de gérer les entreprises dont l'État détient une part du capital et qui a fêté ce jour-là ses 20 ans. Une agence relativement jeune donc, mais qui symbolise des décennies d'évolution des liens entre entreprises et État, entre privé et public, sans que cette frontière soit tout à fait nette. Une ambiguïté que l'on retrouve dans la façon de désigner cet État qui se transforme dès lors en acteur financier. L'État actionnaire, spontanément qui dit actionnaire dit dividende, et l'État de fait en touche à hauteur de 2,3 milliards d'euros en 2023, et dit également patrimoine, alors certes sous forme d'actions et parfois sous forme d'euros sonnants et trébuchants lorsqu'on les revend, ce qu'a fait l'État dont les opérations de cession ont rapporté 1,5 milliard d'euros entre juillet 2022 et juillet 2023, de quoi alimenter les rêves de certains en temps de recherche de recettes. Du reste, il y a quelques semaines, les députés du groupe Ensemble pour la République avait proposé de se délester de 10% des participations de l'État. Alors l'État actionnaire est-il assis sur un tas d'or qui pourrait être mobilisé pour apporter une réponse à la question brûlante du déficit ? Il ne faudrait pas oublier une dimension fondamentale qui dit actionnaire dit aussi stratégie. Et c'est là où reparaît tout l'enjeu d'être aussi, et voire peut-être surtout, un État. Si l'État investit, prend des parts dans certaines entreprises, c'est selon une logique qui lui est propre et qui ne dépend pas uniquement d'un simple calcul financier. Dès lors, c'est une autre musique qui monte.
Elisabeth Borne, le 6 juillet 2022.
Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs même, d'autres ont pu prendre avant nous, dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique.
Ça fait des mois que je suis le dossier Atos.
Bruno Le Maire, le 28 mai 2024.
J'ai pris toutes les décisions nécessaires depuis des mois pour l'accompagner avec le comité interministériel de restructuration, pour apporter un prêt de 500 millions d'euros, pour sécuriser les actifs stratégiques. J'ai pris la décision de marquer mon intention de reprendre le contrôle de toutes les activités stratégiques d'Atos. Mais j'ai toujours dit que dans Atos, et je vous confirme que toutes les activités stratégiques resteront sous le contrôle de la puissance publique, y compris les commandes de contrôle de nos centrales nucléaires.
Cette notion de l'intérêt supérieur de l'État et de projet ambitieux et donc de la nation est au cœur de la façon dont progressivement les investissements auprès des entreprises ont été reconfigurés, repensés entre doctrine et calcul, entre intérêt privé et intérêt général. Alors au nom de quoi l'État se fait-il actionnaire ? C'est la question, tout en tension et en paradoxe, que nous allons aborder jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Marie-Claire Oumabadi. Une émission où j'ai également le plaisir de recevoir Adrien Coutant. Adrien Coutant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de technologie de Compiègne et chercheur au laboratoire COSTEC pour connaissances, organisations et systèmes techniques. Vous êtes aussi chercheur associé à Sciences Po. Également avec nous en studio, Frédéric Tristram, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur à l'IDHES, l'institution, le laboratoire institution et dynamique historique de l'économie et de la société. Adrien Coutant, Frédéric Tristram, j'aimerais partir de trois événements récents, trois actualités qui à chaque fois mettent en avant cette notion d'État actionnaire, mais à travers différents canaux et donc potentiellement différentes visions, et ce afin de comprendre donc toutes les dimensions de cet État actionnaire tel qu'on l'entend aujourd'hui, même si on aura largement l'occasion de comprendre comment elle est le fruit d'une très large construction historique. Le 3 janvier dernier, le groupe finlandais Nokia a annoncé avoir finalisé la cession à l'État français de 80% d'Alcatel Submarine Networks, qui produit et installe des câbles sous-marins. Les parts de l'entreprise sont donc depuis le 31 décembre 2023 la propriété de cette fameuse agence des participations de l'État, l'APE, qui, c'est ce que nous a déclaré Nokia dans un communiqué de presse. Cette vente est estimée à 100 millions d'euros. Adrien Coutant, qu'est-ce qui justifie une telle prise de participation ? Est-ce que c'est là une question de secteur particulièrement stratégique, par exemple ?
Alors oui, effectivement, le secteur des caps sous-marins aujourd'hui a pris une importance stratégique majeure, à la fois disons, réellement dans des enjeux géopolitiques et puis symboliquement aussi. Hein. Et il y a une situation où, pour ce que j'en connais, Nokia souhaitait vendre cette activité qui était basée en France et l'État actionnaire a considéré que, en l'absence de repreneurs français potentiels, eh bien l'État devait se porter acquéreur pour maintenir en France cette activité.
Adrien Coutant, elle est extrêmement importante cette notion de devoir. Vous avez dit l'État devait, c'est ça que fait l'État actionnaire. Il doit investir au nom d'une stratégie nationale de souveraineté.
Alors. En tout cas, moi, j'ai pas forcément d'avis dessus, mais en tout cas, clairement, la question stratégique aujourd'hui, la question de la souveraineté est devenue, notamment depuis la guerre en Ukraine, un peu depuis le Covid, mais beaucoup depuis la guerre en Ukraine, est devenue quand même un élément majeur de justification de l'intervention directe de l'État dans l'économie et marque quand même un retournement par rapport à ce qui était, disons, l'idéologie dominante ou les représentations dominantes au cours des 20, 30, même des 30 dernières années, qui était l'idée que l'État n'avait pas vocation, ce que tout à l'heure on a entendu Bruno Le Maire, il y a encore quelques années on entendait Bruno Le Maire dire que l'État n'avait pas vocation à être actionnaire d'entreprises industrielles. Mais donc on a eu vraiment une période dans laquelle il y avait cette idée dominante que finalement l'État n'était pas forcément un bon actionnaire, n'était pas forcément un bon propriétaire et que si le privé pouvait faire c'était mieux. Il y a un retournement ces dernières années avec une repolitisation de la question des entreprises publiques qui était devenue quelque chose de relativement technique et peu traité dans le débat public. De fait, depuis quelques années, notamment autour de la question des autoroutes, par exemple, la question d'ADP, etc.
C'est revenu dans le débat public.
De retour de la question des entreprises publiques dans le débat public. Sur la toute dernière période, la question de la souveraineté est devenue un peu l'argument central de réintervention de l'État, direct de l'État dans des entreprises.
Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y a cette notion d'avoir une stratégie au nom de quelque chose d'autre, peut-être que la rationalité proprement économique. On comprend le retour en légitimité, peut-être aussi, de l'État se fait au nom d'une vision plus globale de la place aussi de la France dans un système mondialisé où, évidemment, on le voit grâce à l'actualité, mais qui est une forme de retour aussi, une forme de protectionnisme et de défense des intérêts souverains, on va le voir. Frédéric Tristram, pour bien comprendre aussi comment fonctionne cette fameuse agence des participations de l'État, l'APE, qui est un peu, on peut le dire, le bras armé aussi de cet État actionnaire, même s'il en existe d'autres, on va le voir. D'où viennent ces fameux 100 millions d'euros de capitaux publics ?
C'est de l'argent public, ça vient du budget de l'État, ou l'État au sens large, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on est probablement une période, sinon de tournant, au moins d'inflexion. Et j'ai été assez surpris même d'entendre Elisabeth Borne utiliser une expression comme « bataille de la production ».« Bataille de la production », je ne pense pas qu'elle ait utilisé ces mots par hasard, ça nous ramène à la libération, à 1944-45, où c'était le mot d'ordre, employé en particulier à l'époque par le Parti communiste français, où il fallait inciter les forces vives, les travailleurs, les entreprises, et pour beaucoup d'entreprises nationales, de grandes entreprises nationales, qu'il fallait les engager dans cette bataille de la production. C'était les mots qui étaient employés à l'époque. Et donc on a une sorte de retour assez étonnant, alors que depuis les années 1980, on était, comme vous l'avez dit, dans une période de désengagement de l'État.
On va voir par quoi s'est traduit ce désengagement. Adrien Coutant, pour compléter ce panorama aussi sur, j'ai dit le bras armé, mais il n'y en a pas qu'un. Il y a aussi un autre instrument qui est très important, c'est évidemment BPI France. Le 22 novembre dernier, c'est là mon deuxième fait d'actualité, on apprenait que le Coq Sportif était placé en redressement judiciaire. Le groupe en difficulté avait obtenu un prêt de 12,5 millions d'euros en juillet de la part de l'État français, donc par l'intermédiaire de la BPI France Assurance Export. Là, on a établi, Adrien Coutant, que l'État semblait légitime d'intervenir lorsqu'il s'agit de secteurs stratégiques de protection des intérêts de la nation. Est-ce que vraiment le Coq Sportif rentre dans cette acception-là, on va dire ?
Alors non, je pense pas qu'on puisse dire ça, ou alors faut une vision très très extensive. Par contre, la question qui se pose, là, c'est la question plutôt de l'activité économique, de l'emploi en France, etc., qui effectivement est plus dans le giron de BPI France, qui est une conception quand même un petit peu différente de l'État par rapport à l'APE, hein, l'Agence des participations de l'État. C'est vraiment l'idée d'un État actionnaire, actionnaire de grandes entreprises. On y reviendra sur ce que ça signifie. La BPI France, on est quand même plus sur l'idée d'un État investisseur, ce qui n'est pas exactement la même idée, qui est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'États européens. Il y a tout un tas de travaux de collègues en économie sur le retour des banques d'investissement, etc. Donc l'idée est là, de notamment dans le cas français, de suppléer dans certains cas un manque de capitaux, et de capitaux parfois un peu risqués, qui peuvent être intégrés, enfin mis dans l'économie ou dans des entreprises, des PME, etc. Donc ça s'adresse plus au tissu intermédiaire, faire grossir des PME, faire développer des start-up, etc. Alors que l'Agence des participations de l'État, on est vraiment dans... Alors, ils ont des entreprises de taille d'ailleurs assez variable. Il y a des petites entreprises dans le giron de l'APE en réalité, mais on est quand même plutôt dans les grosses entreprises du portefeuille historique de l'État, plutôt dans le monde industriel, dans les transports, dans l'énergie. Voilà, donc c'est la différenciation, elle se joue là, même si des fois, il y a des petites subtilités sur le recouvrement des deux types de portefeuilles.
Donc on voit là qu'il y a une différence à la fois d'échelle et puis aussi peut-être de secteur, et aussi peut-être un enjeu symbolique aussi, vous évoquiez en fait en filigrane les fameux fleurons français. On va voir comment aussi ils sont le fruit de cette évolution-là, du contrôle ou pas de l'État. Troisième fait d'actualité, le 12 septembre dernier, c'est le directeur des prêts de la Banque des Territoires, l'une des branches de la Caisse des dépôts et consignations, qui s'inquiétait de savoir comment les bailleurs sociaux pourraient conjuguer investissements verts et sociaux face aux exigences de la loi Climat et Résilience, qui ont de fait augmenté de façon très importante les coûts de rénovation des logements sociaux. Là, Frédéric Tristram, on arrive à un troisième acteur qu'il faut bien avoir en tête avant de démarrer véritablement cette émission, c'est la Caisse des dépôts et consignations, qui gère aussi à sa façon les investissements de l'État. Mais alors, pour le coup, quel est son périmètre? Est-ce que de la même façon qu'il faut bien distinguer APE et BPI, la Caisse des dépôts a encore un autre rôle?
Alors, la Caisse des dépôts, c'est très étrange parce que c'est le dernier fleuron de l'État dans ses participations financières, dans ce secteur public financier qui avait été très développé dans les années 1950-60 et encore jusqu'aux années 1980 avec les nationalisations de 1982, et puis qui a presque été totalement liquidé. Et c'est assez étonnant parce que c'est l'institution la plus ancienne, en quelque sorte, puisqu'elle a été créée en 1816, alors pour quelque chose qui, à l'époque, n'avait évidemment rien à voir avec le logement social, mais pour quelque chose qui peut redevenir d'actualité, qui était d'assurer ce qu'on appelait la foi publique, c'est-à-dire le fait que l'État rembourse ses dettes, la confiance que l'on doit avoir dans l'État emprunteur. Alors, ça peut sembler une évidence que l'État rembourse ses dettes, mais en 1816, ça ne l'était pas, et il fallait assurer cette confiance par la création d'une institution. Et puis, deuxième date importante, 1837, la Caisse des dépôts et consignations va recevoir le pouvoir, la compétence de gérer les fonds déposés aux caisses d'épargne. Alors les caisses d'épargne, ce sont pas des entreprises d'ailleurs à proprement parler, ce sont des institutions philanthropiques qui n'ont pas de but lucratif, qui gèrent l'argent, l'épargne des pauvres. L'épargne des pauvres est sacrée. Et la Caisse des dépôts va, à partir de ces années 1830, prendre une surface financière tout à fait impressionnante. Et donc elle va devenir le bras armé de l'intervention de l'État dans l'économie, dans le social surtout, avec, dès la fin du 19e siècle, une spécialisation qui est celle du logement social.
Et là, Frédéric Tristram, on arrive enfin au cœur du sujet, finalement, définir ce qu'est cet État actionnaire, et notamment en fonction de son degré d'intervention. La Caisse des dépôts le dit sur son site internet de façon très officielle. Donc, elle se désigne comme un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Mais cette notion d'intérêt général, elle est extrêmement importante. Est-ce qu'elle est pour autant synonyme de service public? Et en quoi le service public, justement, justifie l'intervention de l'État dans l'économie?
Alors, c'est très compliqué de définir l'intérêt général. En l'occurrence, la Caisse des dépôts, elle va se spécialiser dans deux choses qui sont... Alors, elle conserve des participations dans la dette publique, hein, mais ça est devenu un peu marginal. C'est le logement social et, vous le disiez, les prêts aux collectivités locales. Quand elle va, on va lui demander, ce sera le cas à un moment particulier de son histoire, au tournant des années 20 et des années 30, avec un directeur général qui s'appelle Tannery. Quand elle va essayer d'intervenir dans l'industrie, ça se passera beaucoup plus mal. Alors, elle a une spécialisation entre guillemets sociale, mais est-ce que développer l'industrie en France, c'est pas aussi l'intérêt général ? Quant à la notion de service public, là aussi, c'est une notion extrêmement complexe. Et là, il faudrait revenir au début du XXe siècle, quand une école juridique a essayé de définir le service public autour d'un critère matériel, un intérêt public, mais compliqué, un critère organique, une personne publique, mais encore plus compliqué, oui, parce que un concessionnaire, c'est pas une personne publique, et un critère juridique, le droit administratif. Mais le service public, cette notion de service public, est une notion extrêmement plastique qui a pris des significations extrêmement différentes.
Adrien Coutant, sur cette première définition de l'État actionnaire et ce lien justement avec le service public, parce qu'on pourrait se dire très spontanément, si l'État est là, si l'État intervient auprès de certaines entreprises, voire en contrôle la totalité, il faut le dire, c'est le cas de la RATP, de France Télévisions, de Radio France aussi, c'est important de le préciser, c'est au nom justement de la qualité et de la légitimité de ce service rendu au public.
Alors oui et non. D'abord, je voulais préciser un point. Ces trois organisations, BPI, CDC, enfin Caisse des dépôts et Agence des participations de l'État, sont liées entre elles, hein, puisque l'Agence des participations de l'État et la CDC sont co-actionnaires de BPI France. Donc tout ça, ça fait un écosystème relativement cohérent, enfin en tout cas avec des liens forts. Alors, cette notion de service public, elle est très trompeuse en fait, parce que effectivement, elle prend beaucoup de place dans le débat public. Souvent, quand on pense entreprise publique, quand on pense État actionnaire, on pense service public, alors que l'État intervient dans tout un tas d'entreprises où les enjeux ne sont pas vraiment des enjeux de service public. Ce sont d'autres types d'enjeux. Par exemple, dans l'aéronautique et défense, ça va être des enjeux d'autonomie technologique, de défense nationale, etc., qui ne sont pas à titre vraiment propre des enjeux de service public.
Du service direct, quoi.
Voilà. Même quand on parle de service public, on pense souvent le service au public, aux individus, aux usagers, vous et moi, quand on prend le métro pour venir ici. Mais en fait, le service public, y compris dans l'après-guerre, c'est plutôt le service aux entreprises. C'est faire en sorte d'assurer le développement économique du pays. Hein. Le rôle de l'État via EDF, la SNCF, etc., après-guerre, est d'abord pensé sous l'angle du service aux entreprises. En réalité. Hein. On peut avoir aussi des enjeux de type aménagement du territoire, historiquement. Donc, les activités... je pense que réduire la question de l'intervention de l'État à la question du service public, c'est passer à côté d'une bonne partie des raisons de l'intervention de l'État dans les entreprises. Alors, après, vous m'avez posé la question de l'État actionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'État actionnaire ? Alors, l'État actionnaire, c'est déjà une notion relativement récente, en réalité. Enfin, il y a des acceptions anciennes, dans les années 1930, chez des juristes ou des choses comme ça, mais en réalité, dans toute la période d'après-guerre, qui est une période où, de fait, l'État est propriétaire de tout un tas d'entreprises dans tout un tas de secteurs, on parle quasiment pas d'État actionnaire. On parle de secteur public, on parle d'entreprise publique, etc. Il y a tout un tas d'expressions, d'entreprises nationales, etc. Mais pas d'État actionnaire. La notion d'État actionnaire, elle devient centrale pour parler de relations entre l'État et les entreprises publiques au moment, en fait, où le secteur public a beaucoup réduit. En gros, au début des années 2000, où la notion d'État actionnaire est intégrée dans le débat public et dans le vocabulaire de l'État pour relégitimer la manière dont elle contrôle et elle gouverne les entreprises dont elle possède encore des capitaux, donc les entreprises public ou alors là aussi la notion d'entreprise publique est un peu problématique parce que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui l'État possède 10-15%, ce qui formellement n'est pas une entreprise publique puisque on est en dessous des 50%, mais qui en réalité recouvre la même ensemble de réalités qui sont les entreprises à capitaux publics et dans lequel l'État prétend agir comme un actionnaire.
Ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites, Adrien Coutant, c'est que finalement, cette dénomination, cette notion d'État actionnaire, c'était une façon de retricoter ce qui a été peut-être détricoté précédemment. On va le voir. Mais avant tout cela, il faut juste donner aux auditeurs et aux auditrices peut-être un aperçu. On l'a bien compris, peut-être que le bras, on va dire le canal qui nous intéresse le plus, c'est celui de l'APE, de l'Agence des participations de l'État, qui, je crois, a environ 80, un peu plus de 83 entreprises sous sa houlette, on va dire. Donc voilà, ça permet d'avoir un aperçu de on va dire, la diversité aussi des entreprises concernées. Reste à savoir comment l'État, justement, avant de recourir à ces formes très institutionnelles que sont l'APE, on l'a dit, qui est très jeune, 20 ans, ou la BPI, qui est encore plus jeune puisqu'elle a été créée en 2013, comment l'État s'organisait, de fait, pour prendre part à ce tissu, qu'il soit industriel ou tout simplement plus privé, on va dire, français. Pour en revenir peut-être aux origines, vous l'avez dit, il faut remonter aux années 30. Et justement, en 1938, Anatole de Monzy, le ministre des Travaux public revenait sur la création de la SNCF.
1937, il était tel que le gouvernement a créé la Société nationale des chemins de fer en vue d'établir un ajustement exact et définitif entre les dépenses et les recettes du REL. Au lendemain de la convention du 31 août 1937, qui fixe le statut du REL français, les charges du Trésor s'élevaient à 3,9 milliards. Celle du budget à 2,215 millions, le déficit à la traîne. Et en outre, le déficit d'exploitation pour l'exercice 1938 se chiffrait à 2,5 milliards. Total, 8,6 milliards. C'est ce total que j'ai connu le 24 août dernier, lorsque je suis rentré après 12 ans d'absence au ministère des Travaux publics. Comme perspective, un accroissement de dépenses en fonction de la hausse des matières premières et du coût de la vie. Moi aussi, vous le voyez, j'ai dressé un inventaire, voilà l'inventaire. Que faire? Augmenter les recettes? Mais par quel procédé? Je crois pouvoir affirmer que nous avons réalisé, sans dommage réel pour les routiers et leur libre industrie, un boni légitime en faveur de la Société nationale des chemins de fer, dont le budget est après tout le vôtre, à vous tous, citoyens, contribuables et usagers.
On l'a dit, ces années 30 sont riches de réflexions autour de la place de l'État et notamment auprès d'un secteur privé. Adrien Coutant, je vais passer la parole à Frédéric Tristam pour revenir sur ces fameux juristes qui se sont mobilisés à ce moment-là. Mais Adrien Coutant, que nous raconte la création de la SNCF en 1938, la façon dont l'État conçoit son rôle d'acteur économique face au privé? En fait, pourquoi cette nationalisation? Il y avait 5 compagnies privées. De quoi l'État s'est-il aperçu que ce n'était pas une façon efficace de gérer ces infrastructures?
Oui, tout à fait. Alors là, je renvoie aux travaux de mon collègue Jean Finez, qui a beaucoup travaillé sur la question, qui est le spécialiste du sujet. Mais effectivement, la nationalisation de la SNCF, des fois, a posteriori, on la voit comme la marque pas idéologique du Front Populaire, par exemple, alors que non, en réalité, c'est un enjeu financier et économique. En gros, le rail est en crise, les entreprises privées de rail sont au bord de la faillite, voire sont en faillite, et l'État vient sauver les entreprises du rail en reconstituant une organisation qui, à ce moment-là, est vue comme plus efficace. Et de fait, en fait, redresse en bonne partie le rail français. Des fois, sur la question des entreprises publiques, on a des postures souvent idéologiques, hein, de deux types opposés. Hein. Soit, disons, si on est libéral, on va dire les entreprises publiques, c'est forcément inefficace. Et puis, si on est communiste ou socialiste, on va dire les entreprises publiques, c'est forcément pour le bien commun. Bah non, enfin non dans les deux cas. C'est-à-dire que on peut avoir des entreprises publics qui n'agissent pas spécifiquement pour le bien commun ou pour une conception assez spécifique du bien commun. Et puis, à l'inverse, les entreprises publiques ne sont pas nécessairement inefficaces. De la même manière, des historiens ont montré que les nationalisations de 1982 dans le secteur industriel avaient plutôt amené à un redressement, à une réorganisation assez positive, en fait, des entreprises industrielles qui avaient été nationalisées sous François Mitterrand, et que les entreprises qui ont été privatisées quelques années plus tard sous les gouvernements Chirac ou Balladur, en fait, étaient en bien meilleure santé économique et financière que les entreprises qui avaient été nationalisées par le gouvernement Maurois 4 ou 10 ans plus tôt. Donc là, on a vraiment des situations où l'État intervient plutôt en faveur d'un redressement économique et financier d'un certain nombre d'entreprises, qui est l'une des raisons historiques, en fait, assez importantes de nationalisation. Ou on peut penser dans un autre genre, mais qui est assez comparable, aux nationalisations qui ont été faites après la Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles eh bien, on a nationalisé, par exemple, dans l'aéronautique, des entreprises qui étaient en ruine physique. C'est-à-dire que les usines avaient été bombardées pendant la guerre, il n'y avait plus d'infrastructures, etc. Et pour relancer l'industrie aéronautique, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, aucun entrepreneur privé n'aurait eu le capital pour le faire, ou en tout cas, ça aurait été très compliqué. Et l'État, lui, compris avec, ensuite avec l'aide du fonds Marshall, etc., avait beaucoup plus de moyens pour intervenir et pour, du coup, permettre le développement économique de ces entreprises.
Frédéric Tristram, elle est intéressante, cette notion de moyens, finalement. Si l'État intervient, et notamment dans le cadre de l'après-Seconde Guerre mondiale, mais aussi première, dans des périodes de destruction extrêmement importantes, c'est aussi parce que c'est le seul à avoir les moyens, mais aussi la vision de ce qui permettrait à la France de se redresser relativement rapidement.
Ce sont les deux choses alors, qu'on retrouve bien dans l'histoire de la SNCF et globalement du rail. Qui est très particulière en réalité. Le choix qui a été fait, qui est un choix ancien, qui date des années 1840, c'est le choix de la concession, c'est-à-dire de confier à des entreprises privées, mais sous le contrôle de l'État, la gestion et partiellement la construction du réseau. Mais très rapidement, on va se rendre compte que ces entreprises ne sont pas rentables. C'est quasiment immédiat. La seule qui est rentable, c'est la compagnie qui relie Paris et le nord de la France, la compagnie du Nord. Toutes les autres sont dans une situation financière extrêmement compliquée, si bien que dès les années 1850, l'État doit se porter garant de la dette de ces compagnies. Et par ailleurs, une compagnie avant la SNCF sera nationalisée, parce qu'elle est tout simplement en ruine, ça allait fermer, qui est la compagnie de l'Ouest, qui va former la base de services hein, de ce qu'on appelle les chemins de fer de l'État, c'est en 1908. Alors toutes ces compagnies, elles sont dans une situation difficile pendant l'entre-deux-guerres. Par ailleurs, elles ont du mal à se moderniser, à moderniser le réseau, et c'est la deuxième raison, je vais y revenir, qui justifie la nationalisation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas du tout une nationalisation sanction, c'est pas une nationalisation idéologique. C'est un accord qui est passé entre eux, et un accord d'ailleurs plutôt favorable aux actionnaires, parce qu'ils ont été, leur action a été rachetée à un bon prix, qui est négocié par quelqu'un qui d'ailleurs passe du côté des actionnaires et du côté de l'État selon la période, qui s'appelle René Maillère, qui est un conseiller d'État, qui va négocier par exemple au début des années 30 la création d'Air France, mais cette fois-ci du côté de l'État, et qui en 1937, lors de la négociation, est le mandant et travaille au profit des actionnaires des anciennes compagnies, et qui a théorisé, alors on ne dit pas État actionnaire, mais c'est la même notion en fait. Vous avez raison, État actionnaire, c'est lié en fait à une sorte de déclin du rôle régulateur de l'État. On dit dans les années d'entre-deux-guerres, on dit société d'économie mixte. Et c'est René Maillère qui va théoriser hein, ce que doit être une société d'économie mixte. Alors l'autre raison, hein, et on voit bien, c'est qu'il faut rationaliser et développer. Alors on le voit dès les années 30. Parce que ces entreprises sont en crise, on a parlé des compagnies ferroviaires, mais on pourrait parler d'autres exemples. Dès le début des années 1930, il y a un certain nombre de compagnies qui vont mettre la clé sous la porte. La compagnie générale transatlantique, par exemple, la compagnie des wagons-lits, où l'État rentre dans le capital de ces entreprises en 1931. Air France, hein, les compagnies de transport aérien étaient en crise au début des années 30. C'est l'État qui constitue Air France en rentrant dans le capital. Voilà, donc ça c'est aussi une raison centrale. Et puis, il y a une autre raison qui explique la montée en charge de l'État pendant cet entre-deux-guerres, c'est gérer les conséquences de la Première Guerre mondiale, et en particulier, la France reçoit un certain nombre de brevets ou d'actifs industriels qui étaient la propriété de l'Allemagne. Alors, c'est vrai, par exemple, pour la gestion de tout ce qui concerne les brevets liés à la chimie allemande. Et on va constituer des entreprises pour les gérer, où l'État est actionnaire. C'est vrai également, et ça a des réminiscences jusqu'à aujourd'hui, la création de la compagnie française du pétrole pour gérer ce qui était des participations allemandes au sein du pétrole turc et irakien, hein, et la France reçoit 25% de la gestion de ce pétrole irakien et constitue, avec un grand industriel de l'électricité, alors qui n'était pas du pétrole originellement, mais de l'électricité, qui s'appelle Ernest Mercier, cette entreprise qui est le lointain ancêtre de Total.
Vous l'avez dit, Frédéric Tristram, il y a cette notion de rationaliser. On a aussi cette idée que l'État, certes, a des moyens, a la vision, a aussi cette notion de service public tout de même, puisqu'il s'agit là de réseaux ferrés aussi. On pourrait aussi parler d'EDF dans cette circonstance-là. Il y a cette notion d'outil de politique publique aussi au service de la population. Mais ce qu'on a envie de comprendre aussi, Adrien Coutant, c'est pourquoi c'est l'État qui a les moyens d'avoir cette vision, d'avoir les outils pour rationaliser. Est-ce que l'État est doté d'ingénieurs, est doté de personnes qui ont les capacités, on va dire aussi, tout simplement de calcul, de procéder à cette rationalisation, ce qui va peut-être aussi à l'encontre de ce qui a été reproché beaucoup plus tard, de justement être un mauvais gestionnaire.
Je ne sais pas. Alors, on est dans... comment dire ? Dans ce dont on vient de parler, là, dans les années 1930-1940, on est quand même dans une période où l'idée d'avoir des grandes entreprises... monopolistique ou quasi monopolistique lié directement à l'État est quand même largement vu dans le paysage à la fois politique mais aussi académique chez les universitaires en économie etc. comme quelque chose de relativement efficace, c'est-à-dire que comme plus efficace que le marché qui va disperser les capitaux, qui va amener à de la concurrence inefficiente entre les entrepreneurs, et que finalement avoir des gros acteurs monopolistiques gérés effectivement plutôt par des ingénieurs, c'est plutôt plus efficace. Et ce qui nous renvoie quand même à cette idée, ça a été dit tout à l'heure, c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire que quand on étudie les entreprises publiques et les relations de l'État aux entreprises publiques, c'est important en fait de se poser la question, qu'est-ce qui fait que dans une période historique donnée, l'intervention de l'État est plus ou moins vue comme légitime, à la fois par les entreprises elles-mêmes, enfin par les dirigeants des entreprises elles-mêmes, par les hauts fonctionnaires, par les acteurs politiques, par le grand public, etc. Oui. Donc, et on va avoir des grandes variations. C'est-à-dire, si on prend sur un siècle, en gros, depuis les années 1920, on passe d'une période où l'action directe de l'État est de plus en plus légitime, suite à la crise de 29, etc., dans les années 1930. Ensuite, on a une période des années 40 aux années 60-70 où l'action de l'État est globalement vue comme légitime dans l'ensemble du paysage politique, par les dirigeants des entreprises, etc. Et puis ensuite, on a dans les années 80 un retournement. Là, l'État devient assez brutalement très illégitime. Donc on va avoir des gens qui vont dire « mais c'est évident que l'État ne peut pas être un bon actionnaire », ce qui n'est pas du tout évident, mais voilà ce qui convient à ces périodes-là. Donc on a des privatisations, mais on a aussi une transformation assez profonde de la manière dont sont gérées les entreprises publiques. C'est là que vient la notion d'État actionnaire. C'est là que vient tout un mouvement de ce que nous, on a appelé la normalisation des entreprises publiques. Donc c'est le fait de la faire ressembler le plus possible à des entreprises privées, ou en tout cas à ce dont on s'imagine être des entreprises privées bien gérées.
Et ce qui permet de dire, à partir du moment où les entreprises publiques sont censées être des entreprises normales, donc comme les autres, ça permet de dire que ces actionnaires, donc l'État actionnaire, est un actionnaire normal, donc un actionnaire comme les autres. La logique
tout à fait.
S'inscrit comme ça. Ça, c'est pour les années 90, on en vient à cette période-là. Avant cela, il faut le dire, Frédéric Tristram, les choses changent aussi. Le contexte international, le contexte européen aussi change dans les années 70. Lorsque Georges Pompidou arrive au pouvoir en juin 1969, les objectifs, ils ont changé aussi pour la France. Et cet objectif-là de plus seulement être efficace et proposer un service bien géré, on va dire, au public, il y a cette idée d'inscrire la France aussi au sein de cette compétition internationale.
Alors, je vais répondre à votre question, mais je voudrais revenir. Je souscris globalement à la chronologie qui a été faite, c'est-à-dire une montée en charge de la légitimité de l'État dans les années 20 et 30. Et puis, elle est consacrée dans les années 50-60 et encore 70. Puis elle décline avec le libéralisme, le néolibéralisme, le public choice, à partir des années 1980, quand ces idées vont devenir influentes en France. Mais il y a des contre-exemples. Il y a des moments où... donc, c'est pas quelque chose d'idéologique. Y compris pendant les années d'entre-deux-guerres, vous avez des exemples de fiasco industriel de l'État. Je vais vous en donner un. En 1889, l'État a nationalisé le téléphone. Bon. Eh ben, ça se passe extrêmement mal. On n'arrive pas à développer un secteur efficace du téléphone. Et ça devient même, chez des théoriciens, vous parliez d'économistes, de penseurs, d'universitaires, l'un des pères du management, qui s'appelle Henri Fayol, va faire de la gestion du téléphone en France l'exemple ou le contre-exemple de ce qu'il appelle l'incapacité industrielle de l'État. On est dans les années 1920.
Donc, déjà à ce moment-là.
Donc déjà, vous voyez, il y a des moments où ça se passe plus ou moins bien, ou des secteurs où ça se passe plus ou moins bien. Le téléphone, c'est parce que tout simplement, l'État s'en désintéresse. Il pense que c'est pas stratégique et que c'est pour discuter avec ses copains.
Pour le coup, il n'a peut-être pas eu la vision, on va dire.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce qui change également dans cette gestion publique dans les années 40, 50 et 60, c'est qu'on a un instrument qui rationalise l'intervention de l'État, y compris dans le domaine industriel, qui est le plan. C'est-à-dire que tous ces secteurs, toutes ces participations, toutes ces interventions, elles sont coordonnées, sur le mode du consensus. C'est-à-dire que le plan, il réunit des acteurs publics, l'État, les différents ministères, d'ailleurs c'est souvent eux qui se disputent au sein des commissions du plan, des chefs d'entreprise, des patrons et des syndicalistes. Et ces gens s'entendent pour dire, par exemple, il faut électrifier X kilomètres de chemin de fer pendant les 5 années à venir. Alors là, c'est la mission de l'État. Mais ils disent aussi, ce qui serait bien, c'est de produire X tonnes supplémentaires d'acier, et ça, c'est le secteur privé. Et globalement, ce plan est suivi parce que c'est, je vais reprendre l'expression d'un très grand commissaire général du plan, qui s'appelait Pierre Massé, c'est une réduction des incertitudes. Le plan, c'est l'anti-hasard. Donc quand vous êtes un chef d'entreprise, quand vous êtes un sidérurgiste, que vous devez organiser votre production d'acier, vous avez deux solutions. Faire ce que vous avez envie de faire sans écouter personne, ou suivre les indications du plan, et vous avez beaucoup de choses à perdre dans le premier cas et beaucoup de choses à gagner dans le second.
Voilà. Et puis Frédéric Tristram, de cette fin des années 60, on l'a dit, marquée par cette ouverture à la concurrence aussi, à cette inscription dans un marché plus libre, elle est aussi marquée par un événement très français pour le coup, c'est la publication d'un rapport qui a beaucoup compté aussi. Le rapport de Simon Nora, effectivement. Alors ce rapport-là, il le dit, il faut redéfinir les frontières, oui. Il déplore ce flou entre privé, public, on ne sait pas trop où on se situe, ça va changer la donne aussi, Frédéric Tristram.
Alors surtout, le rapport Nora, il va porter sur les modalités de gestion de ce secteur public.
Exactement.
C'est l'enjeu. Alors, on est en 1967, si mes souvenirs sont bons.
Tout à fait, je vous le confirme.
Donc, on est en 1967. Et contrairement à ce qu'on pense, le secteur public, le service public, il s'est quand même beaucoup développé sous le gaullisme. Le général de Gaulle n'est pas l'ennemi du service public. On investit, c'est le moment où on va investir lourdement, par exemple, dans la RATP, on va faire le RER, etc. Bon. Et donc, ça gonfle. Et il faut essayer de redéfinir à la fois le périmètre, mais le mode de gestion. Et donc, c'est un enjeu, d'ailleurs, chez les décideurs publics ou chez les dirigeants des grandes entreprises nationales qui aimeraient bien avoir des latitudes de gestion plus larges, surtout quand ils sont dans un secteur qui est un peu concurrentiel, par exemple Renault. Donc, Nora va nous dire, globalement, il faut bien distinguer ce qui relève des coûts de ce service public et de ce qui doit être assuré par l'État et de ce qui doit être assuré par les usagers. Donc, il y a une notion de service et les usagers doivent participer au financement du service. Et puis, il y a ce qui est socialisé. Et ça, c'est de l'argent public.
Ce qui est intéressant aussi dans ce rapport émis par Simon Nora donc en 1967, c'est qu'il estime que le secteur public offre l'image d'un paysage aux frontières imprécises et à la physionomie chaotique. Et il recommande donc de mieux distinguer les missions d'actionnaire de la tutelle. Ça, Adrien Coutant aussi, c'est une forme de tournant dans ce fameux processus de normalisation. Désormais, on entend bien ranger chaque chose à sa place.
Oui, alors c'est amusant, regarder l'histoire des relations entre l'État et les grandes entreprises publiques, c'est voir un certain nombre de rapports comme ça qui viennent, effectivement le rapport Nora de 67 sur, qui appelle à la normalisation, à la modernisation, pardon, des entreprises publiques, évidemment un jalon essentiel. Le rapport qui va mettre au cœur les notions d'État actionnaire, c'est le rapport Barbier de la Serre, donc en 2003. Donc là aussi,
l'année précédente de la mise en place de la PE,
qui appelle à la création de l'Agence des participations de l'État et qui là aussi critique l'inefficacité du relative de l'État dans ses relations aux entreprises publiques et appelle à la séparation des différents rôles à ce moment-là, donc d'État actionnaire, d'État client, d'État régulateur, etc. Et donc affirme le fait qu'il faut que l'État aussi assume finalement sa posture d'actionnaire et appelle à la création de l'Agence des participations de l'État pour incarner cet État actionnaire et donc pour construire avec les entreprises une relation de type actionnarial spécifique.
Ce qui a le mérite d'institutionnaliser, on va dire, la chose à travers cette agence-là et puis cette volonté de modernisation. Frédéric Tristram, pour revenir aussi sur cette époque, vous le dites dans un chapitre rédigé dans l'ouvrage Pour une histoire sociale et politique de l'économie, voilà, qui était en hommage à Michel Margaras, qu'on a déjà reçu ici dans cette émission, donc je le précise. Vous dites qu'il y a une autre forme de participation de l'État, peut-être plus insidieuse. Vous dites qu'entre 1973 et 1985, il y a une forte augmentation des dépenses de transferts à l'économie qui augmente de 4,3% en moyenne sur toutes ces années-là. Ces transferts à l'économie, ce sont quelque part des dispositifs d'aide, des béquilles, vous le dites, donc une façon pour l'État de prendre sa place aussi dans cette économie-là entre privé et public.
Alors, on rentre dans une situation de crise conjoncturelle et de ralentissement de la croissance. Donc, il y a des entreprises qui sont des entreprises en difficulté, des secteurs même qui sont en difficulté et parfois même des régions avec des populations importantes, ouvrières, qui ne vivent que de ça. Je pense à la Lorraine, par exemple, et à la sidérurgie. Donc, en effet, il va y avoir des transferts importants de fonds publics vers ces secteurs en difficulté ou ces entreprises. Alors, le meilleur exemple, c'est la sidérurgie qui va en fait, à bas bruit, être nationalisée dans les années 1970, puisque la sidérurgie était très lourdement endettée vis-à-vis de l'État, via un certain nombre d'instruments financiers. Et Raymond Barre va décider de transformer ses crédits en actions, donc de fait, ce sera aussi le moyen, entre guillemets, de restructurer, c'est-à-dire de baisser les capacités de production d'un secteur qui était extrêmement déficitaire et extrêmement concurrencé par d'autres sidérurgies japonaises, etc.
Et donc l'endettement inquiétait aussi pour l'économie plus généralement.
Plus généralement. Et puis, ce sont des moments où on va malgré tout continuer de développer un certain nombre d'instruments industriels publics. Je pense notamment au programme électronucléaire à partir de 1973, ce qu'on appelait le plan Messmer, qui va durer jusqu'au milieu des années 1980.
Adrien Coutant, vous vouliez...
Oui, je voulais réagir à cette discussion sur le fait que ce qui est particulièrement intéressant, je dirais presque d'un point de vue conceptuel sur les entreprises publiques, c'est qu'elles incarnent quand même l'épaisseur de la frontière entre l'État et le monde économique. C'est-à-dire que les entreprises publiques, elles déjouent en permanence la frontière un peu simpliste entre privé et public, État-entreprise, État-marché, etc. Et je trouve que conceptuellement, elles amènent même dans certains cas à rejeter ces catégories, en fait, qui ne sont pas pertinentes pour expliquer ce qui se passe dans les entreprises publiques. Et d'un point de vue sociologique, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir que les dirigeants aussi de ces entreprises, ça a été un peu dit tout à l'heure, mais les dirigeants de ces entreprises entretiennent une proximité sociologique extrêmement forte avec les hauts fonctionnaires qui... quel que soit leur statut, qui sont des actionnaires, qui sont de la tutelle, etc. Mais il y a de la circulation très très forte hein, entre les entreprises et
l'État. Oui, il ne faut pas imaginer une opposition frontale.
Le plan était évidemment une incarnation de ça, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire, ces circulations restent extrêmement vraies. Il y a une forte proximité, ce qui fait que parfois des entreprises dans lesquelles l'État est très peu actionnaire, voire pas du tout, en fait, entretiennent le même type de de proximité avec la haute fonction publique que des entreprises où l'État est actionnaire plus fortement. Donc vraiment, je pense que si les entreprises publiques doivent nous inviter à faire quelque chose, c'est bien à casser cette opposition un peu simpliste entre État et marché, privé et public.
Il y a un exemple fascinant sur la durée justement de ce brouillage des frontières entre le public et le privé, c'est Dassault. Dassault, alors, qui s'appelait Marcel Bloch, l'entreprise de Marcel Bloch, est nationalisée une première fois en 1936.
Là, on peut dire que c'est dans la logique sectorielle aussi.
C'est la logique du réarmement.
De la guerre,
du réarmement, de la mobilisation. Il y a 6 entreprises aéronautiques, dont celle de Marcel Bloch, qui sont nationalisées. Marcel Bloch reste à la tête de l'entreprise nationale. Et à côté, il a un bureau d'études privé qui donne des conseils à l'entreprise nationale, dont il est le patron. Donc, tout ça se fait dans la concertation. Et puis, reconstruit une entreprise après-guerre. Et puis, cette entreprise, à nouveau, va être partiellement nationalisée en 1980, entrée de l'État dans le capital en 1982. Et puis, elle sera privatisée. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État n'est plus actionnaire du tout de Dassault. Mais peu importe, à la limite. Parce que Dassault, l'un de ses principaux clients, c'est l'État. Et quand il s'agit de vendre du Rafale, c'est l'entreprise d'assaut privé qui la fabrique, le Rafale, mais c'est le ministre de la Défense, voire le président de la République, qui est le commis voyageur de Dassault. Donc, et Dassault fournit l'État français. Et quand il fournit pas assez sur les marchés internationaux, c'est l'État français qui achète. Donc, vous voyez.
Donc on retrouve cette logique, en fonction des circonstances, en fonction des secteurs, de fait, ces frontières-là parfois sont totalement abolies.
Et complètement avec une variété de situations et un certain pragmatisme dans beaucoup de situations.
Qui s'impose très, très régulièrement. On l'a dit, les années 80 vont être riches, en tout cas entre ces mouvements de nationalisation puis privatisation émergent, se concrétisent même, on l'a dit, s'institutionnalisent l'idée que l'État n'est pas forcément le meilleur gestionnaire des intérêts de ces entreprises et qu'il s'agit désormais de normaliser ces relations. Un message émerge, le privé n'appartient plus nécessairement au public. Pour reprendre les termes de Leslie Gore, You don't own me. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other girls. Don't tell me what to do. Bien à l'écoute de France Culture, nous nous intéressons aujourd'hui aux évolutions de ce que peut l'État à travers les liens tissés ou justement dénoués avec les entreprises. C'est le mot État actionnaire qui rentre aujourd'hui dans notre dictionnaire de l'écho. Arrive dans ces années 80 le temps de la première cohabitation, ces années 80 qui avaient été marquées auparavant par le 11 février 1982 où il avait été voté la loi de nationalisation de toute une série d'entreprises. La première cohabitation où Jacques Chirac met sur la table une série pour le coup inverse d'ordonnances de privatisation. Mitterrand, dans une interview donnée le 14 juillet 1986, se montre plus que méfiant à leur égard.
Je dois être le garant de l'indépendance nationale. Je ne peux donc pas accepter que ces biens qui appartiennent à la nation, je le répète une fois de plus pour être bien compris, soient vendus de telle sorte que demain, alors que l'on fabrique, il s'agit de l'industrie, des objets, des produits, des marchandises nécessaires à l'indépendance nationale, qu'on puisse les retrouver dans les mains d'étrangers. Je ne les citerai pas, mais je vois très bien de qui il s'agit. Alors, des précautions verbales sont prises, écrites aujourd'hui, mais je ne vois pas comment cela serait respecté si on les livre au marché privé. Au nom de quoi ? au bout de peu d'années, surtout à l'intérieur de la communauté européenne, qui a des règles, et ces règles de la communauté européenne, c'est justement un marché intérieur libre. C'est-à-dire tout, chacun peut acheter ce qu'il veut à l'intérieur de nos 12 pays. Ce sera tout à fait vrai dans 5 ans. Alors on doit quand même prévoir au-delà de demain matin, on doit prévoir sur 10 ans, 15 ans. C'est le bien de la nation.
C'est le bien de la nation, voilà ce que disait Frédéric Mitterrand en 1986. Frédéric Tristram, vous avez commencé, excusez-moi, j'ai confondu entre les Frédéric, c'est évidemment François Mitterrand qui nous parlait depuis cette archive de 1986, Frédéric Tristram. À ce moment-là, il faut le dire, il y a à la fois des privatisations d'entreprises qui se font, mais aussi en réponse à la privatisation dans le secteur bancaire qui avait eu lieu au tout début des années 80, le mouvement inverse s'enclenche. Et moi, je voudrais qu'on insiste sur cette notion de privatisation puis de nationalisation du secteur bancaire, puisqu'on l'a dit, si l'État intervient, c'est aussi en raison de sa capacité à financer les investissements.
Alors, globalement, il y a eu un consensus politique, social, technique, des grands ingénieurs de l'État, etc., pour définir le périmètre du secteur public entre 1945 et le début des années 1980. Et voilà qu'au début des années 80, on nationalise dans un climat politique conflictuel. Et ce consensus est brisé à ce moment-là, d'une certaine manière. Et ce sont les nationalisations, c'est pas pousser le paradoxe que de dire ça, ce sont les nationalisations de 1982 qui permettent les privatisations de 1986, et notamment dans le secteur bancaire. En 1945, c'est une loi de décembre 45, on avait nationalisé la Banque de France, qui était privée, et quatre grandes banques de dépôt, les quatre principales banques de dépôt qui correspondent à la société, qui sont la Société Générale, le Crédit Lyonnais et ce qui deviendra en 1900, dans les années 60-66, je crois, la BNP. Bon. En 1982, on décide de nationaliser 39 banques et deux groupes financiers, Suez et Paribas. La nationalisation de Paribas est extrêmement compliquée parce que Moussa, le patron de Paribas, s'y oppose. Donc il y a un contentieux, c'est extrêmement difficile. Et ce sont pour l'essentiel des banques d'affaires, avec l'idée que ça va orienter les financements vers un certain nombre de secteurs privilégiés. Mais déjà, il y a une ambiguïté, y compris au sein de la gauche, puisque Michel Rocard n'était pas tout à fait favorable à cette solution. Il avait plaidé, à la fin des années 1970, pour des nationalisations partielles à 51%, qu'il suffisait de prendre le contrôle d'entreprise, c'était pas la peine d'aller jusqu'à 100%. Et puis, il y a des débats par exemple, la nomination des dirigeants de ces entreprises pour savoir quel est leur niveau d'autonomie ou d'indépendance de gestion dans un secteur qui est, et François Mitterrand le redit, dans un secteur qui est en voie de libéralisation. Et ce sont les socialistes eux-mêmes qui libéralisent le secteur financier avec la loi bancaire de 1984. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de contradictions. Si bien que les nationalisations de 1982 sont quand même extrêmement ambiguës. Mais c'est vrai que dans le secteur industriel, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, elles vont permettre de recapitaliser des entreprises industrielles qui étaient en situation de quasi-faillite en 1982 et qui vont être privatisées ensuite à partir de 1986. Mais surtout de 1993, dans de bien meilleures conditions qu'elle n'était à la fin des années 1970.
C'est intéressant, Adrien Coutant, parce qu'à l'époque, on l'a déjà dit, mais l'APE n'existe pas, l'Agence des participations de l'État n'existe pas. Qui chapeaute ces mouvements-là? Comment s'organise? En fait, comment l'État parvient finalement à s'imposer aussi face à ce mouvement-là? Est-ce que... En fait, on a l'impression qu'il y a un lent mouvement et qui se joue évidemment au niveau très, très politique, etc. Mais est-ce qu'il y a une forme d'organisation de l'État qui se joue spécifiquement là? Est-ce qu'on pense la question comme on la pense aujourd'hui en termes d'État actionnaire? Est-ce qu'à l'époque, déjà, c'est sur le tapis?
Non, la notion d'État actionnaire, en ce moment-là, elle n'est pas encore réellement présente. Elle se développe après, dans les années 90 et surtout 2000, avec un mouvement international, il y a notamment l'OCDE qui a, dans les années 2000 aussi, construit des lignes directrices sur l'actionnariat public. C'est aussi le moment dans les années 2000 où il y a l'apparition des fonds souverains, etc. Donc d'autres formes d'actionnariat public. Je voulais revenir sur deux points très ponctuels. Déjà sur les nationalisations de 82, je conseille vraiment la lecture du livre très intéressant de François Morin, grand économiste, mais qui par ailleurs était acteur des nationalisation de 82, et qui raconte les conflits extrêmement durs qu'il y a eu justement au sein de la gauche sur les nationalisations, mais ça c'était vraiment un point un peu plus ponctuel. Je voudrais revenir sur un point de ce que disait tout à l'heure François Mitterrand, quand il parlait du fait que, en gros, si on privatise, bah derrière, on n'a plus de contrôle sur les entreprises. Et ça, c'est vraiment probablement l'enjeu central aujourd'hui maintien de l'État au capital de tout un tas d'entreprises. Quand on fait des entretiens avec les gens au sein de l'Agence des participations de l'État, dans d'autres administrations centrales, l'expression qui revient souvent, c'est la notion de garder les centres de décision en France. Il y a cette idée d'essayer de faire en sorte que les grandes entreprises, avec toujours l'idée du champion national en fait, qui reste un peu l'institution en arrière-plan, que ces grandes entreprises nationales, il faut faire en sorte que, à la rigueur, peu importe la forme capitalistique qu'elles ont, mais ce qu'il faut, c'est qu'on garde leur contrôle en France. Donc il faut garder les sièges en France et il faut faire en sorte que la plupart des investisseurs, au moins une partie significative des investisseurs, des actionnaires, soient français. Le problème est que souvent, c'est assez compliqué de les trouver, ces investisseurs français. Typiquement, dans le cas d'ASN, par lequel on a commencé l'émission, l'un des problèmes de l'État, c'était de dire, mais qui veut racheter ça? Et personne en France ne voulait racheter ça.
N'est pas volontaire.
En tout cas, pas dans les conditions satisfaisantes globalement. Donc, du coup, l'État devient un peu, dans certains cas, un actionnaire un peu en dernier ressort. Ce qui est le cas aussi, le cas italien, en Italie, c'est caricaturalement ça. C'est-à-dire l'État italien est actionnaire de tout un tas d'entreprises qu'ils aimeraient privatiser, mais qu'ils ne privatisent pas, parce qu'il n'y a pas de capitalistes italiens qui sont en mesure de les acheter. Et que donc, si l'État italien les vend, le gouvernement italien a craint que ça soit racheté par des Français, par exemple, et que donc on perde le contrôle. Donc cet enjeu du contrôle, elle est assez essentielle.
Enjeu du contrôle qui avait été notamment mis en lumière aussi pendant en octobre dernier, quand BPI France avait annoncé acquérir 2% du capital d'Opella, le producteur du Doliprane, et ça avait quand même fait jaser, dans le sens où 2%, tout le monde s'était dit que c'était relativement minime par rapport justement au poids des fonds d'investissement américains qui en reprenaient le contrôle. Frédéric Tristram, vous souhaitiez réagir sur cette notion de qui se porte volontaire à la place de l'État, si ce n'est l'État, qui donc?
Garder le contrôle. Garder le contrôle, pourquoi? D'abord pour sauver des emplois. C'est le cas de Doliprane, par exemple. Bon, sauver des emplois.
Là, ça s'entend en termes de stratégie.
Et puis, avec des objectifs quand même plus dynamique, essayer de maintenir une force industrielle en France, même si la France, il faut quand même le souligner, a été le pays d'Europe quasiment le plus touché par la désindustrialisation. Donc, ça vient aussi mettre un peu en question tout ce que nous venons de dire jusqu'ici. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même un tropisme de l'État, c'est-à-dire l'État, il est incarné, l'État. Il y a des décideurs publics, des hauts fonctionnaires au ministère des Finances, à la direction du Trésor, etc. Bon, qui vont s'intéresser plutôt à certains secteurs qu'ils estiment essentiels et stratégiques, plutôt qu'à tel autre. Alors, parfois, ils ont raison, mais parfois, ils se plantent totalement. J'ai cité tout à l'heure la question des télécommunications, c'est resté en rade pendant des années, et jusqu'aux années 1970, on s'est rendu compte qu'on était dépassé par à peu près tout le monde, en tout cas par à peu près tout le monde en Europe occidentale. Mais je vais prendre un autre exemple, un des secteurs probablement les plus dynamiques en France, qui est le luxe. On n'en parle jamais.
Oui, les questions ne se posent pas. Oui.
Alors, peut-être parce que l'État n'a pas besoin d'intervenir, parce que ça roule tout seul. Mais si demain, M. Arnault décidait, parce qu'il paie trop d'impôts, de déplacer ses centres de décision en dehors de France, que ferait l'État?
La question s'était aussi posée pour Sanofi sur ces leviers, cette possibilité de la contrainte. Adrien Coutant, sur cette notion de contrôle-là et la façon dont elle se renouvelle aussi aujourd'hui face à ces menaces de délocalisation.
Oui, la question du contrôle, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que... Comment dire, la question de l'emploi en France, évidemment, elle est importante. Bien entendu, on est chez des décideurs publics, donc pour qui il vaut mieux que l'État reste en France. Mais ce qui est quand même assez notable, c'est que la politique de l'État vis-à-vis de ces grandes entreprises, et notamment en tant qu'État actionnaire, est marquée par l'idée qu'il faut surtout que les entreprises aillent bien.
Parce qu'il y a une recherche de rentabilité.
Et qu'il y a une recherche de rentabilité, il y a des enjeux de concurrence internationale, etc. Et qu'il y a ce modèle du champion national qui est un modèle vraiment extrêmement fort. Donc il faut avoir des grosses entreprises nationales. Et à la rigueur, si elle ferme un peu en France, bon, bah, c'est regrettable, mais c'est aux dirigeants de savoir quelle est la meilleure stratégie. Donc, le contrôle, il est quand même plutôt dans l'idée d'une économie dont, disons, l'élément central, ce sont des grandes entreprises sur des marchés monopolistiques internationaux, et que ces grandes entreprises, il faut les favoriser, et que ce contrôle, il sert d'abord à ça.
Adrien Coutant, on a beaucoup parlé de vision stratégique, de sauvegarde de l'emploi, d'intérêts nationaux, de souveraineté aussi. Le montant total des dividendes perçus par l'État pour 2022 a cru de 8% par rapport à l'année précédente. Dans quelle mesure l'État est de fait un actionnaire qui cherche aussi à avoir une vision financière purement de rente aussi, qui touche grâce à ces actions-là?
Tout à fait. Alors, l'État actionnaire, ça veut bien dire ça aussi. Ça veut dire que l'État, il gère les entreprises avec les instruments financiers, les instruments d'un actionnaire. Donc, ça veut dire qu'en termes d'instruments de contrôle, c'est beaucoup par les instruments financiers et par le conseil d'administration qu'on va contrôler les entreprises. Et derrière, ça veut dire que l'État est demandeur de dividendes et de politique de cours de l'action, que ça amène l'État à vendre des actions lorsque le cours est haut, ce que l'État a fait, par exemple, chez Engie ou chez Safran au cours des années 2010. Et ça veut dire que l'État est très demandeuse en politique financière de la part des entreprises, qui amène, par exemple, moi, dans les entreprises où j'ai fait des entretiens, à des membres du conseil d'administration expliquer que les administrateurs qui demandent le plus de financiariser les entreprises, c'est les représentants de l'État et pas les administrateurs indépendants, ce qui est un peu paradoxal quand on pense à l'État actionnaire de long terme. Voilà.
Et on arrive donc là à une forme de rationalisation extrême, et peut-être d'aboutissement aussi du processus de normalisation de cet État actionnaire. Merci beaucoup à tous les deux, Adrien Coutant et Frédéric Tristram, d'avoir participé à cette émission.